rubrique de littérature paysanne à mes Mahmoud Alaya. Adieu Mahmoud.
Adieu, bonsoir.
Alors, à cette COP, dans la chronique de littérature paysanne, te sais en passeggiant à la sconfine d'Occitania, vuol dire d'un Périgord, et à qui as rencontrat une romancière qui écrit des livres et qui se dit Geneviève Calero, Genoveva Calerot, qui est et le mettez la quitte Genoveva est paysanne et mai écrit des romans. Alors, d'un premier, Calès Geneviève Calero.
Bon, ben Geneviève Calero, c'est une femme exceptionnelle que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'a accordé un entretien. Elle est exceptionnelle, elle est née en 1916. Ça veut dire qu'elle a aujourd'hui 96 ans et elle est pleine d'énergie et de dynamisme. Aujourd'hui encore, elle cultive son jardin, elle conduit son tracteur et elle écrit des romans captivants et elle a des projets plein la tête. Alors Geneviève Calero, elle vit effectivement en Dordogne, à la limite nord-ouest un peu de l'Occitanie, ce qu'on appelle l'Occitanie. Elle vit là-bas depuis 1920 à Saint-Olé. C'est le village Saint-Olé. C'est une région agricole qui s'appelle la Double et se situe un peu à l'ouest de Périgueux. Alors, aujourd'hui retraitée agricole, elle est fière d'avoir trait les vaches à la main et gavé les canards pendant plus de 50 ans.
Ah, qui moules là-bas, quoi. À la main, et mai enguisera le guide pour faire des bons fêtes de grâce.
Dans ses ouvrages, elle nous livre de vrais documents sur le pays. Les travaux, les jours, et tout cela à travers la destinée des héros de ses romans, que sont les paysans et les paysannes du XXe siècle en Périgord. Alors, je l'ai rencontrée, on va l'écouter un peu, et après on va parler de ses écrits. Oui, alors, Geneviève, donc, je suis très content de pouvoir écouter un peu ton expérience. Hein. Tu es une grande dame paysanne et tu as traversé le siècle, hein, et tu vas peut-être te présenter rapidement pour les auditeurs en disant tes origines, un peu ton enfance, ta famille et puis comment tu es venue à l'agriculture.
Eh bien, mon père avait toujours rêvé d'être agriculteur. Il a donc fait 3 ans de service militaire et 4 ans de guerre, et en revenant, il s'est installé agriculteur. D'abord aux environs de Nantes, mais c'était beaucoup trop petit, et par des relations communes, il a pu acheter une propriété dans la Double du Périgord. Pays pauvre, c'est 40 000 hectares en Dordogne, où le calcaire est à 9 mètres chez moi, 23 mètres chez mon père, donc des alluvions d'argile et de sable, c'est une terre pauvre.
Oui, bon, d'accord, donc le père agriculteur, et toi, tu es né quand et comment tu as...
Je suis né en 1916, mes premiers souvenirs de jardin, c'est dans la petite propriété qu'il avait achetée à côté de Nantes, mais en 1920, il a vendu là-bas et nous sommes arrivés dans la Double du Périgord.
D'accord. Donc, dans la Double du Périgord, tu avais quel âge?
J'avais 4 ans et demi.
4 ans et demi. Oui. Bon, et après, tu as été à l'école?
Je n'ai pas été à l'école parce que l'école de Saint-Olé était trop loin pour mes petites jambes. L'école de Servanche, c'était un pauvre monsieur qui était à la fois tuberculeux, alcoolique et ignorant. Ma mère, qui avait son mauvais supérieur, avait le droit d'enseigner, avec l'aide d'un petit bulletin pour l'enseignement dans la famille, elle nous a enseigné.
Bon, donc formé à la maison par tes parents, c'est déjà une chance. Et puis après, alors, l'agriculture, tu as été à la ferme des parents?
Ah ben non, l'agriculture tout de suite. Oui. Même en apprenant à lire, j'étais quand même à soigner les lapins, à donner le brin aux poules, à ramasser les œufs. J'ai commencé à traire régulièrement à partir de 11 ans.
bien. Bon, donc tu connais, traire à la main.
Traire à la main.
Voilà.
Jusqu'à 51 ans, et il n'y a pas beaucoup de gens en France qui peuvent dire la même chose, parce que 51 ans à la main, ça donne des bons biceps.
Très bien, donc ça c'est une bonne expérience de la traite des vaches à la main. Bon, et après, alors...
C'est peut-être ça qui m'a fait écrire, parce que en trayant, le lait tombe chic dans le seau, et on a le temps de réfléchir, on a le temps de s'en raconter des histoires, on a le temps de s'en faire des souvenirs.
Oui, alors on va venir aux histoires. D'abord, parlons un peu encore de ton expérience, ta connaissance de l'agriculture, hein, parce que bon, tu as travaillé dans la ferme des parents. Alors les parents, ils étaient métayers et ou ils étaient fermiers. Tu t'es marié. Bon, un peu, donne-nous la suite.
Je n'ai pas arrêté. J'ai commencé à traire à la main à 11 ans chez mes parents. Je me suis mariée à 27 ans. Et j'ai continué le travail que je faisais chez mes parents, les chevaux, les vaches, et tout, quoi.
D'accord. Bien. Et alors, tu as connu les différents systèmes d'exploitation, le métayage, le fermage, la propriété, etc., et à travers la famille de tes parents ou ton expérience. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces expériences de métayage et de fermage et de propriété, etc., les avantages?
Quand on s'est marié, mon mari revenait de captivité. Il n'avait donc aucune expérience. Il avait fait les beaux-arts, il était architecte, mais il n'avait jamais travaillé, parce que parti à 20 ans, il est revenu à 26 ans. Et là, il a décidé qu'il voulait faire comme son père, qui était agriculteur, mais qui était décédé, et devenir agriculteur. Il est parti faire un stage agricole dans Ille-et-Vilaine, où mon père avait des copains de régiment. Et puis, il est arrivé au mois de décembre chez nous, et on s'est marié au mois de juillet. Et on a pris une petite ferme, assez petite, complètement...
Vous l'avez prise en métayage ?
Nous l'avons prise en fermage.
En fermage,
oui. Et bon, on a vécu là un an, et puis après ça, nous avons eu l'occasion de devenir métayer dans une grande, très grande... Ça, c'était tout petit. Il y avait 6-7 vaches, et puis pas beaucoup de terre. Et là, où nous avons pris, il y avait... 63 hectares et 40 bêtes. Et là, nous avons été métayés.
Et on a eu
13 ans.
13 ans métayés.
Et un an fermier. Parce que la propriétaire qui s'occupait, c'était des gens très âgés, très gentils, on ne voulait pas leur faire de peine. Mais quand la dame est morte, c'est les neveux qui ont pris la suite et nous étions considérés comme des serfs. Il aurait fallu qu'on aille s'occuper des bois. Sans être payé ni rien, mais on avait le travail des vaches, on avait quand même plus de 40 têtes de bétail, et il fallait traire, à la main, bien sûr.
Oui, alors vous avez demandé un statut de fermier.
Nous avons demandé un statut de fermier, on nous a fait un procès, comme quoi on était bon à rien, mais on a eu le statut de fermage pendant un an.
Voilà.
Et ça a changé la vie.
Ça a changé la vie.
Ça a changé la vie parce qu'on était libre de faire des cultures intelligentes, alors qu'autrement, nous étions tenus de ne rien changer dans la nature des terres.
Voilà, c'est ça. Donc, le statut de métayage est beaucoup plus contraignant et il ne laisse pas de liberté à l'exploitant de faire ce qu'il a envie.
C'est le propriétaire qui continue à diriger l'exploitation.
Voilà. Bon, alors, je crois qu'on va s'arrêter là pour l'expérience sur l'agriculture et on va passer... surtout un autre thème, c'est Geneviève Calereau, écrivain.
Thank you.
Alors Geneviève, on vient maintenant à la partie Geneviève Calraux, écrivain paysan. Alors, comment, je voudrais que tu nous dises en quelques mots, comment tu es venu à l'écriture et quand est-ce que tu as écrit ton premier roman ?
Eh bien, c'est venu à cause d'une barrière électrique qui ne marchait pas. J'étais obligée de surveiller les bêtes parce que la barrière électrique n'était pas assez forte et elle la défonçait. Mais j'avais toujours, depuis mon plus jeune âge, j'avais toujours beaucoup aimé la lecture et j'avais écrit deux, trois petites choses. Et c'est mon cousin Jean-Charles qui, lui, était... qui était de mon avis, nous avions les mêmes goûts, mais lui était déjà écrivain patenté, et il venait me voir de temps en temps. Et une fois, je lui ai montré l'histoire d'une fille que j'avais écrite en gardant les vaches. Et il m'a dit, les nouvelles en France, ça vaut rien, il faut que tu écrives un livre complet, et moi je te trouverai un éditeur. Ça m'a fait un peu peur, un livre entier, c'est beaucoup, c'est... Et puis j'ai pensé que, puisque j'avais écrit l'histoire d'une fille, je pouvais écrire l'histoire de ses sœurs. Et j'ai donc écrit l'histoire de ses cinq filles, en regardant ce qui se passait autour de moi. Les cinq filles n'étaient pas forcément de la même famille, mais tous les faits sont vrais.
Alors ce sont des filles qu'on plaçait dans les familles, c'est ça des...
Les familles de métayers, dès que les enfants étaient en âge de gagner un peu de sous, on les plaçait. Entre autres, ma mère avait pris une petite servante un moment, qui était mariée. Elle lui a dit, mais pourquoi vous êtes-vous mariée si jeune, à 15 ans et 3 mois ? Madame, j'étais placée. Ma mère venait tous les mois, elle prenait les 5 francs que je gagnais, elle s'achetait un tablier neuf et elle me donnait son vieux. Alors j'ai pensé qu'en me mariant, je pourrais m'acheter un tablier neuf.
Oui, donc ce sont des histoires de familles de filles de familles pauvres placées. Ça se déroulait à quelle époque à peu près ça ?
Eh bien, 20, 30, jusqu'à la guerre.
Voilà, 1920 jusqu'à la guerre, quoi. Voilà. Bon, alors c'est ce roman, comment il s'appelle ?
Il s'appelle Les cinq filles du Grand Marail.
Voilà, ça a été édité chez Deboré. Alors, combien de temps tu as mis pour l'écrire et quand est-ce qu'il est sorti ?
Alors, j'ai commencé à l'écrire quand Jean-Charles est passé, donc j'ai mis un an. C'était vers les années 80. Jean-Charles a mis un an pour me trouver un éditeur, et l'éditeur a mis un an pour l'éditer. Forcément, il m'attendait pas pour faire des livres. Il est donc sorti en 83.
Voilà, donc 83, 1916, oui. Tu avais plus de 60 ans quand même, à l'âge de 60 ans.
Oui, j'en ai 60 et quelques, oui. Voilà.
Bon, alors, et après ce livre, tu as écrit, je crois, un autre qui s'appelle Les 13 grains de maïs.
Alors, j'ai écrit d'abord un livre de nouvelles,
oui.
Et après j'ai écrit un autre roman paysan qui s'appelle 13 grains de maïs, et je l'ai écrit parce que j'avais un fils qui n'habitait pas loin, et il n'y avait plus d'eau dans la fontaine, et il venait tous les jours chercher un bidon d'eau. Et il me racontait les vacheries qu'en faisait quelqu'un qui était locataire à côté de lui. J'ai abandonné le livre que je faisais à ce moment-là et j'ai écrit 13 grains de maïs.
C'est un roman un peu autobiographique.
Non, parce que je ne suis pas du tout l'héroïne, c'est une enfant de l'assistance, j'ai jamais été de l'assistance, bien sûr. Mais c'est un roman autobiographique en tant que travail. C'est-à-dire quand mon héroïne passe par où je suis passée. Travailler d'abord avec des vaches, après avec des chevaux, et enfin avec un tracteur. Vieux. Un vieux tracteur. Pénible, dur.
Et tu l'as toujours, ce vieux tracteur ?
Oh, pas celui-là, parce qu'il était à essence et il n'y avait pas de démarreur. Non, mais j'en ai un autre vieux, je ne sais pas de quel il date, c'est un Ferguson. Il va très bien.
Tu le conduis ?
Oui, je le conduis, je fais mon jardin.
Parfait. Bon, alors, est-ce que tu as encore des projets de livres ?
J'ai pour 200 ans de projet.
Non. Mais sincèrement, est-ce qu'il y a des livres en cours de publication ? Est-ce qu'il y a des livres en cours d'écriture ?
Alors, il y en a un qui est écrit, qui est fini déjà depuis peut-être 7-8 ans, mais ce n'est pas un roman. Et les éditeurs voudraient que je le romance. Je l'ai fait avec ma sœur qui est maintenant décédée et nous ne changerons pas un mot de ce que nous avons dit. Parce que c'est l'histoire, ça s'appellera, si toutefois je trouve un éditeur, ça s'appellera Deux filles sous la botte. Deux filles sous la botte, chronique d'une famille sous l'occupation. Et ce qu'on raconte, il n'y a pas un mot qui ne soit pas la vérité de ce que nous avons vécu à ce moment-là.
Mais c'est à partir de quoi que vous avez écrit ce livre ?
À partir de 600 lettres que ma sœur et son fiancé avaient, son fiancé faisant ses études de médecine à Nantes et elle étant à la terre en Dordogne, ils sont écrits pendant 6 ans, pendant 4 ans. Et il y avait 600 lettres.
Pendant 4 ans, mais c'est pendant la guerre.
Pendant la guerre. Mais ils sont arrêtés sans mari en 1943, donc de 1939 à 1943.
Voilà, donc deux filles sous la botte, oui. Sous la botte pendant la guerre, quoi.
Voilà.
La Deuxième Guerre mondiale. Bon, j'espère...
J'ajouterai quand même que j'ai fait un mois de prison allemande, que c'est une excellente expérience.
Bon, j'espère que donc, tu trouveras un éditeur pour ce livre qui me paraît très intéressant. Merci.
Voilà.
Bon... Avant de clore cette émission, je voulais ajouter que Geneviève Calreau est une militante de l'Association des écrivains et artistes paysans, l'AEAP, dont je rappelle l'adresse du site internet pour les auditrices et auditeurs qui voudraient avoir plus d'informations. Hein, c'est www.écrivains-paysans.com. Alors sur ce site, hein, je répète, www.écrivains-paysans.com. Sur ce site, on trouve l'information sur plus de 400 ouvrages écrits par des écrivains paysans qui témoignent sur leur vie, leur culture, etc. Et on y trouve également la totalité des émissions de Radio Languedoc dédiées à notre chronique de littérature paysanne.
Mais des chansons pour dire les jolies filles, celles que beauté, charme et grâce habillent, celles dont le corps fait que d'amour on rêve, rien pour celles pour qui c'était marche ou crève, qui 18 heures d'affilée travaillaient pour gagner juste de quoi pas de faim crever. Stella, Marie, la Louise ou la Justine, la Mélanie ou la grande Albertine, qui à grand-peine menaient leur vie à terme, toutes les ce qu'on appelait les bonnes des fermes, étaient traitées comme des maris souillons. Quelque chose comme de rustique cendrillon. Sourire fallait aux humeurs de la maîtresse et ne point crier quand le maître passait les fesses. Et créature à notre image faite devait trimer parfois plus dur que les bêtes. Leur chavirait laissant un soir d'été, et dans la paille elle se faisait culbuter. Puis les bâtards qui étaient leur réplique les remplaçaient à l'assistance publique. Marie salope, pas Marie, couche-toi là. Bague aux doigts sortaient leurs épingles des draps. C'était la Marie, la Louise ou la Justine, la Mélanie ou la grande Albertine, qui à grand-peine menaient leur vie à terme, toutes les ce qu'on appelait les bonnes des fermes. Au seuil de leur vie s'habillaient comme veuves, pour elle, la mort n'était pas une épreuve. Recevait quelque écu un jour de comice pour 60 ans de bons et loyaux services. pour toute une vie de labeur et de sacrifice. Et du patron même assouvir les vices. Avec comme fait que d'aller à l'église, comme gage de quoi s'acheter une chemise. Et de l'orphelinat les souvenirs peu tendres, de la bonté du monde leur faisait peu attendre. Subissant partout des iniquités, en remonterait pourtant sur la dignité. Stella, Marie, la Louise ou la Justine, la Mélanie ou la grande Albertine, qui à grand-peine menaient leur vie à terme. Toutes les ce qu'on appelait les bonnes des fermes. Dedans les brancards où le sort les ficelait, ni avec la mort pouvant les dételer. Et y a pour leur tombe dedans nos cimetières guère plus de respect que pour des taupinières. Sont mortes que nul des profondis ne pleure, que ces vieilles histoires point ne vous émeuvent. C'était que la Marie, la Louise ou la Justine, la Mélanie ou la grande Albertine, qui à grand-peine ont mené leur vie à terme. Toutes les ceux qu'on appelait les bonnes des fermes.
Acoero la chronique de littérature paysana, mais Mahmoud Alaya. Les pauses musicales, une petite musique qui nous vient de Bretagne, Arre Yawank, désolée pour escrancal ou non. Et la seconde est Robert Rotrou, les chanteurs du Perche.